Vous écoutez, on lit pour vous.
Prendre soin de sa santé auditive pour briser l'isolement. Un texte du réseau des cliniques LOB, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage. La perte auditive peut malheureusement mener à de l'isolement si l'on évite d'être confronté à des situations d'écoute potentiellement difficiles. En effet, la crainte de ne pas bien comprendre peut freiner son désir de participer à de nombreuses activités sociales, comme assister à un spectacle ou se réunir avec des amis. Il existe pourtant des solutions pour renverser ce réflexe de repli sur soi. En prenant soin de soi. En étant consciente des premiers signes d'une possible perte auditive et de ses conséquences sur sa qualité de vie, chaque personne sera mieux outillée afin de prévenir l'isolement qu'elle pourrait causer. Prendre soin de soi, c'est d'abord être à l'écoute de ses besoins. Faire vérifier notre audition. En cas de doute quant à sa capacité à percevoir des sons, une évaluation sommaire de l'audition avec une ou un professionnel de la santé auditive permettra d'avoir l'heure juste et de démystifier la démarche à entreprendre pour être guidé vers la prise en charge de sa santé auditive. En allant vers les autres. Pour briser l'isolement social, écouter la petite voix courageuse qui sommeille en nous peut faire toute la différence. Quand une personne malentendante reçoit une invitation pour participer à une activité, il peut lui être tentant de décliner l'offre pour éviter d'être confrontée à des situations gênantes. Mais, sans s'en rendre compte, elle ouvre ici la porte à un piège insidieux, soit celui de se priver petit à petit de profiter pleinement du bonheur de côtoyer les personnes qui lui sont chères. Évidemment, selon l'importance de sa surdité, plusieurs activités peuvent être faites par soi-même, dont certaines sont moins exigeantes sur le plan de la communication. Se donner confiance en commençant par visiter des lieux qui nécessitent moins d'interaction, comme les musées ou les bibliothèques. Sortir en petits groupes pour faciliter la communication. Choisir un moment moins achalandé lors d'une sortie au restaurant, par exemple. L'importance d'entretenir ses passions. Avoir des passe-temps préférés contribue également à briser l'isolement, puisqu'ils permettent de côtoyer d'autres personnes qui vivent les mêmes passions. Il est donc primordial de développer des stratégies qui facilitent la communication plutôt que de délaisser les activités qui nous tiennent à cœur et qui font du bien. Offrir de l'aide à ses proches, comme préparer des petits plats pour les membres de sa famille, peut aussi être une façon de socialiser à son rythme. Briser l'isolement peut se faire de différentes façons. Il s'agit de trouver celles qui conviennent le mieux. Prendre soin de sa santé auditive, c'est profiter de la vie encore longtemps. C'était « Prendre soin de sa santé auditive pour briser l'isolement », un texte du réseau des cliniques LOB, paru à l'automne 2024 dans le magazine Virage.
Encore trop peu de protection pour les collisions entre cyclistes. Un texte de Mathias Poisson, paru le 17 juillet 2024 dans le Devoir. Les accidents entre cyclistes et automobilistes font bien souvent la manchette. Mais à l'heure où le réseau express vélo rêve continue de se développer et où les véhicules électriques pullulent sur les pistes, les collisions entre cyclistes sont de plus en plus fréquentes et elles ont des conséquences qui s'avèrent coûteuses, selon des témoignages recueillis par Le Devoir. Comme plusieurs cyclistes, Guillaume Lepage utilise son vélo comme principal mode de transport été comme hiver. Le Montréalais se rendait au bureau lorsqu'il a été percuté non par un automobiliste, mais bien par une cycliste qui n'a jamais vérifié si quelqu'un arrivait avant d'emprunter la piste cyclable. Un accident qui lui aura valu une épaule disloquée, une côte fracturée et un pneumothorax. Je me suis pris sa roue avant, ça m'a stoppé net. J'ai fait un vol plané et je me suis brutalement étalé au sol, confie Guillaume Lepage, qui se trouvait sur une des pistes les plus achalandées de la métropole, sur la rue de Brébeuf, en bordure du parc Laurier. Yves Bonneau a lui aussi subi d'importantes blessures à la suite d'un accident avec un autre cycliste. « Je m'en allais vers le Mont-Royal et un gars a décidé de tourner sans avertir sur la rue Sherbrooke. Il était sur ma droite, donc on s'est accroché au milieu de la piste. On s'est entremêlé les pédales. Lui est tombé et moi j'ai beaucoup forcé pour ne pas tomber. » À la suite de ça, je me suis disloqué une vertèbre dans le bas du dos, témoigne M. Bonneau, dont l'accident, survenu en juin 2016, lui aura valu une hernie cervicale de 6 mois. De coûteuses collisions. M. Bonneau et M. Lepage s'estiment chanceux d'avoir pu couvrir leurs frais médicaux et leur convalescence grâce à des assurances privées de leur travail respectif. Cela n'a pas été le cas pour Gabriel Tremblay, qui a été percuté par un autre cycliste sur la piste devant Habitat 67. M. Tremblay s'est retrouvé avec une fracture du pouce et du poignet, en plus de dommages matériels sur son vélo et 4 jours de convalescence qu'il a dû payer de sa poche. En tout, je crois avoir perdu 4 jours monnayables. Pour le vélo, c'était autour de 300 $. Ce qui est regrettable, selon Magali Bebronne, porte-parole de Vélo Québec, c'est le manque d'assurance pour ces accidentés. Lorsqu'une personne ayant un permis de conduire et assurée à la Société de l'assurance automobile du Québec décide de prendre son vélo au lieu de sa voiture, elle se retrouve complètement démunie, explique-t-elle. En plus de la vulnérabilité physique que l'on a sur la route, on a cette vulnérabilité face au système. C'est un peu la double peine. Le cas de Robert Leblanc, décédé après une collision avec un autre cycliste il y a 3 ans au croisement des rues Ontario et Berry, récemment défini comme l'intersection la plus dangereuse de Montréal par le groupe Transportation Research de l'Université McGill, TRAM, est sûrement un des exemples les plus tragiques de ce type d'accident. Pour assurer la sécurité sur les pistes cyclables, la Ville de Montréal a d'ailleurs revu ses critères d'aménagement pour s'assurer qu'elles sont plus larges. Des pistes plus larges ou unidirectionnelles, lorsque c'est possible, permettent à différents types d'usagers allant à des vitesses différentes de dépasser de façon sécuritaire des usagers plus lents, mentionne Hugo Bourgoin, porte-parole de la Ville. Un phénomène difficile à quantifier. Les collisions vélo-vélo ne sont toujours pas comptabilisées. On manque de données. Les collisions qui sont rapportées sont seulement celles faites à la Société de l'assurance automobile du Québec et impliquent un accident avec un véhicule moteur. C'est vraiment un problème, déplore la porte-parole de Vélo-Québec. À Montréal, ni la Ville ni le service de police n'ont de données sur les collisions entre cyclistes. Vélo-Québec déplore que le gouvernement provincial n'ait pas profité de son projet de loi modifiant la loi sur l'assurance automobile, le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions pour élargir l'indemnisation offerte par la SAC, même lorsqu'un accident n'implique pas un automobiliste. Quant aux données, un groupe de travail a été mandaté par la SAC pour dresser le portrait des collisions n'impliquant pas de véhicules routiers et analyser les options visant à étendre la couverture d'assurance pour inclure les personnes impliquées dans ce type d'accident. Le rapport du groupe est d'ailleurs toujours attendu. C'était « Encore trop peu de protection pour les collisions entre cyclistes », un texte de Mathias Poisson paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir.
Le Klondike des francophones, un texte d'Anne-Marie Provost, paru le 11 août 2024 dans la presse. Le français est en déclin partout au Canada. Partout? Pas au Yukon, où le nombre et la proportion de personnes parlant français ont atteint un sommet historique lors du dernier recensement de Statistique Canada. Le territoire nordique attire les francophones et de nombreux Québécois y déménagent. La presse s'est rendue sur place pour en savoir plus. White Horse. Dans le ciel qui alterne rapidement entre un soleil d'été brûlant et des nuages passagers chargés de pluie, le vrombissement d'un avion qui circule à basse altitude perce soudainement les tympans. C'est un Beaver, un avion de brousse. Il décolle du lac juste à côté, lance avec enthousiasme Vincent La Rochelle, les yeux rivés au ciel. L'avocat de 37 ans, originaire de Québec, revenait tout juste d'une course à relais en vélo entre le Yukon et le sud de l'Alaska lorsque la presse l'a rencontré devant sa maison à Whitehorse. Il vit au Yukon depuis 8 ans, après y être allé pour une expédition de canot alors qu'il travaillait dans un environnement complètement différent comme avocat fiscaliste dans un cabinet à New York. Vincent La Rochelle témoigne. C'est parti des tripes. C'était la décision à prendre. Je n'ai jamais regretté. Son quartier est au pied de la Grey Mountain, qui culmine à une altitude de 5000 pieds et est un terrain de jeu pour les résidents qui la dévalent l'été en vélo de montagne. Comme bon nombre de résidents, il parle avec enthousiasme de la nature sauvage à proximité et des expéditions d'alpinisme, du ski de fond et de haute route, des rivières où on peut canoter des jours sans croiser un être humain et de la chasse. L'homme à la feuille de route imposante, qui a étudié à l'université d'Oxford avec une bourse Rhodes, a également trouvé son compte dans la région en bâtissant une pratique comme avocat de la défense axée sur les appels pour faire prévaloir l'opinion des communautés plus rurales et nordiques dans la justice canadienne. Francophonie en ébullition. Le Yukon est populaire chez les Québécois, attiré par les grands espaces ou les emplois bien rémunérés ou qui y atterrissent un peu par hasard. Près de la moitié des gens sur le territoire qui ont comme langue première le français sont nés au Québec, selon le dernier recensement de Statistique Canada. Les francophones des autres provinces canadiennes et les immigrants en provenance d'Europe et d'Afrique gonflent également la francophonie. Si l'ambiance est au déclin dans d'autres provinces, la communauté franco-yukonaise, même si elle reste de taille modeste, a le vent dans les voiles, avec des indicateurs à la hausse selon les données de Statistique Canada. Depuis 30 ans, la proportion de résidents, dont le français est la langue maternelle, est passée de 3,4% à 5,7%. C'est vraiment très, très positif, lance Isabelle Salès, directrice générale de l'Association franco-yukonaise qui fait la promotion du Yukon à l'extérieur du territoire. D'autant qu'on prévoit une continuité dans l'augmentation du nombre de francophones. Le Yukon est une terre où presque tout le monde vient d'ailleurs, dit-elle, et la communauté francophone telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est implantée il y a une quarantaine d'années. L'accès à des services en français peut inciter à s'y établir plus durablement, mais il reste du travail à faire. Les besoins sont réels, souligne Jean-Sébastien Blais, un autre Québécois au Yukon depuis une quinzaine d'années et qui est président de la Commission scolaire francophone du Yukon, CSFY. La presse l'a rencontré dans un café populaire du centre-ville de Whitehorse, niché entre un magasin de fromage fin et un commerce de jouets pour enfants. Une quarantaine d'élèves de niveau secondaire étaient auparavant dans le même bâtiment que ceux du primaire, une option peu attrayante qui en incitait plusieurs à poursuivre leurs études secondaires dans une école anglophone. Mais les jeunes ont été déplacés dans une nouvelle école secondaire il y a quelques années qui a ouvert ses portes après une très longue bataille judiciaire contre le gouvernement yukonais. En août 2024, nous allons avoir 160 élèves dans un bâtiment qui peut en accueillir 150. On a un problème de popularité, glisse Jean-Sébastien Blais, ajoutant du même souffle qu'il faudrait plus de garderies francophones. Et de ne pas avoir de formation en français au poste secondaire pour nos diplômés, je trouve ça scandaleux, lance-t-il. Le financement qui vient avec la protection du français peut toutefois causer des tensions avec les communautés autochtones, certains estimant qu'en donnant aux uns, on ne donne pas aux autres. Mode de vie nordique. Si la francophonie est en essor, l'anglais est fréquemment utilisé dans les couloirs des écoles, rapporte une enseignante de niveau primaire. Il y a encore beaucoup d'insécurité linguistique, note Marie-Christine Boucher. Ce n'est pas toujours facile pour les élèves d'être fiers d'être francophones. Ils vont cacher leur identité dans la masse. La presse la rencontre avec son amie, également enseignante, dans un quartier dans l'est de Whitehorse, où se trouvent des bungalows, des entrées asphaltées et du gazon vert bien taillé. Le système d'éducation yukonais, qui vise notamment à réduire l'écart de réussite entre les élèves autochtones et les Blancs, est attirant pour les deux enseignantes, pour qui il importe de sortir du fantasme individuel du Yukon, centré sur les grands espaces sauvages, et de redonner à leur terre d'accueil et aux Premières Nations. Stéphanie Pelletier-Grenier dit « Dans notre baccalauréat, nous avons lu des ouvrages sur la colonisation et la décolonisation et les traumas intergénérationnels. On enseigne d'une façon plus expérientielle, avec un peu moins de papier, et on va plus souvent dehors. » Lors de notre passage, la Québécoise s'activait à nettoyer sa vanne dans laquelle elle vagabondera tout l'été. Elle et ses colocataires doivent quitter leur maison en location car la propriétaire revient. Trouver un logement est notoirement difficile au Yukon. « Je voulais acheter, mais c'est tellement hors de prix », laisse-t-elle tomber. Les deux Québécoises sont arrivées au Yukon à quelques années d'intervalle. « Je me suis sentie comme à la maison, que j'arrivais à la bonne place », glisse Stéphanie, qui décrit un mode de vie nordique et alternatif. « Il y a des gens de plein d'endroits et d'horizons, et plus d'opportunités et d'entraide », renchérit Marie-Christine. Les deux se sont accommodés des longues journées ensoleillées d'été énergisantes, ponctuées de moustiques voraces et d'incendies de forêt, et des jours glaciales d'hiver avec peu de soleil. Des conditions qui sont parfois hostiles, admettent-elles. Tu n'as pas le choix d'être débrouillard. Il peut arriver des choses plus extrêmes parce que le territoire est plus extrême, souligne Stéphanie. Il faut que vous disiez à tout le monde que l'hiver est vraiment difficile, lance en riant à la presse Marie-Christine. Sinon, tout le monde va vouloir venir. En savoir plus, source Statistique Canada, 14,4%. En 2021, 14,4% de la population était capable de soutenir une conversation en français. En 2021, 4,6% de la population du Yukon, soit 1815 habitants, avait uniquement le français comme première langue officielle parlée. C'est une augmentation de 15% par rapport à 2016. En 2021, 5,7% de la population, soit 2275 résidents, avaient le français comme langue maternelle. En 1991, on recensait plutôt 945 personnes, soit 3,4% de la population. C'était le Klondike des francophones, un texte d'Anne-Marie Provost, paru le 11 août 2024 dans la presse.
Comment choisir un sac pour ordinateur portable? Extrait. Un texte de Maxime Johnson paru le 3 juin 2024 dans Protégez-vous. Vous devez transporter votre portable pour le travail ou l'école ou en voyage? Trouver le bon sac risque d'être encore plus compliqué que de choisir l'ordinateur lui-même. Type de sac, matériaux, imperméabilité, enveloppe protectrice, rangement, taille, prix, voici tout ce que vous devez savoir pour choisir le sac d'ordinateur qui répondra le mieux à vos besoins. Que vous achetiez votre sac dans une boutique ou en ligne, trois grandes catégories s'offrent à vous: le sac à dos, le sac à bandoulière et la mallette. Citation. Généralement, quand les gens viennent nous voir, ils ont déjà une bonne idée du type de sac qu'ils veulent. Fin de citation, dit Manny Moura, gérant de Shredder et acheteur pour ce magasin familial de vêtements, chaussures et sacs situé à Montréal. Sa clientèle n'en est pas tellement une d'affaires, donc la mallette y a moins la cote que d'autres options, mais le sac à dos et le sac à bandoulière sont aussi populaires l'un que l'autre dans ce commerce, selon Manny Moura. C'est 50-50, observe-t-il. Généralement, le sac à dos est l'option la plus confortable quand vient le temps d'effectuer de longs déplacements et de transporter une charge lourde. Il est donc à privilégier pour un étudiant qui doit traîner plusieurs livres, par exemple. Le sac à bandoulière, y compris le sac messager, une variante conçue pour le vélo, se démarque pour sa part par la facilité d'accès à son contenu qu'il permet, ce qui est certes pratique si, à l'occasion, vous devez sortir rapidement un appareil photo ou un calepin de notes. La mallette, elle, se veut l'option la plus élégante dans un contexte professionnel, mais ce bagage à main est généralement plus petit et moins agréable à transporter que d'autres. Le type de sac ne représente toutefois qu'une petite partie de la quête vers l'objet parfait. Vous devez aussi penser aux matériaux dont il est fait, à la taille de sa poche protectrice pour ordinateur, à la capacité dont vous avez besoin et aux différentes caractéristiques recherchées, comme son niveau de résistance aux intempéries et la gestion du rangement. Mais attention, chaque décision vient avec ses inconvénients. Par exemple, un sac muni de multiples pochettes s'avère bien pratique si vous aimez que chaque chose soit à sa place, mais il risque aussi d'être plus lourd que d'autres, tandis qu'un sac en nylon est plus résistant qu'un sac en polyester, mais aussi plus cher. Le guide d'achat qui suit vous permettra d'y voir plus clair. 10 caractéristiques à considérer. Le type de sac. En plus des sacs à dos, des sacs à bandoulière et des mallettes, certains modèles mélangent les genres. Les bretelles du Forge 20 de Black Amber, environ 325 $, peuvent par exemple être cachées pour être en mesure de convertir ce sac à dos en sac à bandoulière ou en mallette. Les matériaux. Les deux principaux matériaux utilisés dans la conception des sacs pour ordinateur sont le nylon et le polyester. Citation. Le nylon est plus durable, mais le polyester coûte moins cher et résiste mieux à l'eau. Fin de citation, résume Josh Sprague, fondateur de la marque d'équipement extérieur Orange Mud. Dans les deux cas, plus le nombre de deniers du tissu est élevé, plus ce dernier sera dense et résistant. Un nylon de 1050 deniers est donc plus solide qu'un autre de 420 deniers. Cela est important si vous êtes rude avec votre sac, mais moins si vous êtes plutôt du genre à y faire attention. Parmi les autres options qui sont souvent offertes, mentionnons le canevas en coton ciré, qui doit idéalement être ciré tous les 2 ans environ, et le cuir, plus cher mais qui conserve une belle apparence pendant des années. À souligner que plusieurs marques proposent aussi du cuir vegan, une option plus écologique et moins chère que le cuir animal, mais moins résistante que ce dernier. Peu importe le matériel choisi, de plus en plus de marques proposent aussi des modèles qui sont conçus avec des tissus provenant de fibres recyclées. La pochette d'ordinateur. Les fabricants de sacs indiquent la taille de leur pochette en fonction de celle de l'écran de l'ordinateur qu'elle peut contenir. L'épaisseur de la rembourrure varie d'un modèle à l'autre et certaines pochettes sont dotées d'un double fond, ce qui fait en sorte que l'ordinateur ne touche jamais le sol. Le rangement. il y a deux écoles de pensée pour ce qui est du rangement dans les sacs. Acheter un modèle avec de nombreuses poches et pochettes où chaque chose va à sa place, ou encore opter pour un produit où tout peut être rapidement déposé dans un grand espace central. La capacité. La capacité d'un sac est généralement mentionnée en litres. Pour un sac à dos, 15 litres, c'est peu. 20 litres, c'est moyen. Et 25 litres, c'est beaucoup. L'imperméabilité. Les sacs complètement imperméables se font rares. Citation. Les sacs imperméables ont de gros inconvénients, dont leur lourdeur. Les fabricants préfèrent donc proposer des options résistantes à la pluie légère seulement. Fin de citation, explique Josh Sprague, qui a lui-même conçu environ 200 sacs pour 30 entreprises différentes. Même si un sac est annoncé comme imperméable, il vaut mieux ne pas trop le mouiller. Le sac à dos Astoria de Vessi, $190, par exemple, est bel et bien présenté sur le site web de cette entreprise canadienne comme imperméable. Cependant, dans notre essai pour tester cette affirmation, une douche de 5 minutes, l'eau a bel et bien pénétré dans le sac. Le confort. Optez pour un sac muni de bretelles ou d'une bandoulière épaisse dont le design semble épouser la forme de votre corps. Une rembourrure à l'arrière est aussi appréciée, tout comme l'utilisation d'un tissu maillé au niveau du dos qui permet à l'air de circuler. Le design. Le design influence l'allure du sac, lequel peut être élégant ou plutôt utilitaire, avec différentes sangles d'ajustement et une fente pour une bouteille d'eau, entre autres exemples. Certains modèles sont aussi dotés de fonctionnalités supplémentaires, comme un porte-clés intégré. Le prix. Vous trouverez autant des sacs vendus à 20 $ qu'à 1 000 $. Citation. Certains sacs peuvent paraître chers, mais s'ils sont de bonne qualité, ils peuvent vous durer toute votre vie. Fin de citation, note Josh Sprague. La garantie. En règle générale, les garanties varient d'un sac à l'autre, allant d'un an à une garantie à vie. Il est toutefois important d'en connaître les conditions. L'usure normale n'est habituellement pas couverte et la normalité varie d'un fabricant à un autre. Certains remplaceront une vieille fermeture à glissière, par exemple, alors que d'autres, non. C'était « Comment choisir un sac pour ordinateur portable ?» Extrait. Un texte de Maxime Johnson, paru le 3 juin 2024 dans « Protégez-vous ».